à l'école, de la laïcité, etc. Et ça, cette émission a participé au lancement d'une affaire, quoi, une affaire médiatique très importante. Et pendant des semaines et deux semaines, c'est-à-dire pendant près de 3 mois, je crois, jusqu'à la fin de l'année, les milieux médiatiques se sont mis à débattre de cette question. Il y a eu plein d'éditoriaux, plein de prises de position, plein de courriers des lecteurs sur cette affaire de foulard, et avec cette dimension dominante qui est que non, il faut que la France, pilier des droits de l'homme, pilier de tout ce qu'on veut, n'accepte pas ce signe d'obscurantisme, de sexisme, d'inégalité des sexes, etc. Bon. Voilà, c'est absolument clair, quoi, que c'est une affaire qui a été montée, qui a été lancée par les médias, qui a été attisée par une concurrence entre les médias, qui a été exploitée par des responsables politiques qui ont joué des jeux à plusieurs bandes pour lutter contre des adversaires politiques en interne ou en externe, et qu'à la fin, on a totalement évacué, ce faisant, la question sociale. Puisque finalement, on est aussi dans un contexte où Mitterrand vient d'être réélu et que on est exactement dans les mêmes thématiques qu'en 81, où à partir du moment où la gauche est au pouvoir, elle évacue la lutte des classes, elle évacue la question de la domination sociale. Bon, ben voilà. Et là, avec ce genre de débat sur le foulard, sur l'islam, sur l'intégrisme islamiste, le terrorisme islamique et toutes ces questions-là, on divise absolument les luttes de revendication sociale. Ouais, je veux dire, c'est clair. Et à partir du moment où ça a été lancé comme une affaire médiatique, un certain nombre de gens ont instrumentalisé cette question à d'autres fins, tout bêtement. Voilà, c'est un instrument, l'islam, c'est un instrument. Et je pense qu'il est urgent d'avoir des discours de contre-propagande, quoi. C'est ça la priorité, c'est de lutter contre ce discours de propagande.
Pour la première fois ce matin, la police était présente devant le lycée Romain Rolland. Sans doute pour empêcher les incidents d'hier, quand le lycée était bloqué par un piquet de grève composé d'élèves et de personnes étrangères au lycée.
Antenne 2.
Ce matin, plus de grève, le comité de soutien aux jeunes filles voilées suspend son mouvement.
27 septembre 1994.
Réunis en assemblée générale hier, les professeurs sont catégoriques contre le port du voile au nom de la laïcité, contre les méthodes du comité de soutien.
Ce qu'on sent, c'est qu'il y a une pression, oui, qui s'exerce sur les élèves, qui a quelque chose qui est de l'ordre du terrorisme, si on peut employer ce terme, je crois, dans ces cas-là, puisque c'est une pression qui est aussi bien verbale, d'abord, que physique, et qui met les élèves dans un état de peur. Je crois que c'est ce qu'on appelle le terrorisme.
De la part d'islamistes, de militants islamistes?
Je ne les connais pas. De la part d'individus qui ne sont pas connus de nous comme étant des lycéens.
Abdelaziz Chambi, tu as 52 ans. Mmh. En 1983, tu étais parmi les marcheurs. Donc la marche, ce que la mémoire collective
connais,
a retenu, la marche
sûr,
des beurs.
Bien sûr, j'ai
donc
commencé
ça, c'était
à
en 83. Et en 1992, tu es celui qui a mis ici en place pour la première
le
fois en 1992.
Le premier congrès de la jeunesse musulmane, effectivement, en 92 ici, avec l'Union des jeunes musulmans, dont je suis un des cofondateurs. Et on a lancé un travail au Menguette. Alors c'était pas le hasard, on l'a choisi volontairement aussi.
Ici.
Moi, ici. Pourquoi? Parce que la marche est partie des Menguettes, faut pas l'oublier. Donc c'est la révolte des gens des quartiers populaires qui exigeaient l'égalité de traitement, l'égalité de droit et de la lutte contre le racisme. Nous, ce qu'on voulait, c'était montrer qu'on voulait continuer ce combat politique pour la revendication d'égalité de droit et de traitement, mais en même temps dire aujourd'hui, c'est plus nos parents qui vont être dans l'invisibilité culturelle, dans l'invisibilité de leur identité, dans l'invisibilité de leur religion, c'est plus l'islam des caves. On veut, nous, aujourd'hui, revendiquer à la lumière, au vu aussi de tout le monde, le fait qu'on est musulman, mais qu'on est citoyen et qu'on veut participer.
Ça, vous ça plaît, c'était ça donc vous plaît, en 1992
92.
Avec le premier congrès des jeunes musulmans de France.
Exactement, on a fait 92, alors au préalable.
Et comment il a réagi, donc André Gérin, à l'époque, il était le maire.
Nous, on avait créé l'Union des jeunes musulmans en fin 87. Donc à Lyon, on était déjà, on commençait à se faire connaître sur la place publique. Et on est venu effectivement à Vénissieux, on a ouvert là la tour 15, là, qui est juste là,
un
lieu de culte. Donc là, André Gérin, il était tout oui. Le bonhomme, il a été élu grâce aux voix des musulmans à chaque élection municipale.
Ça, c'est sûr.
Ça, c'est certain, et tout le monde le sait, et il suffit de regarder dernier
mais
épisode.
Est-ce que ça veut dire que toi, par exemple, à l'époque, tu étais quand même un acteur incontournable face à M. Gérin,
oui.
Donc tu as appelé à voter pour
lui.
Oui,
nous, pour nous, on préférait, je ne le cache pas, même aujourd'hui, moi, je préfère voter pour un mec communiste que laisser le Front National prendre une municipalité et m'imposer une politique à Vitrolles ou à ce qu'on a vu à Orange. C'est-à-dire que c'est un mec qui a compris que les musulmans peuvent être rentables politiquement. Il n'y a pas que lui, d'ailleurs.
André Gérin, à cette époque, est déjà l'interlocuteur. Votre interlocuteur, c'est le maire, donc ici pour Vénissieux, et donc, a fortiori, du quartier où on est, les Minguettes. Est-ce que, de cette époque, de 92 jusqu'à ces dernières sorties médiatiques, notamment contre la burqa,